J'ai pris aujourd'hui pour guider notre prédication un seul texte très court et très important d'ailleurs, dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles : qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ? Et alors, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit : ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié ? Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et ils ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Frères et sœurs, la fleur fane, l'herbe se dessèche, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Frères et sœurs, chers amis, imaginons un peu l'infinie détresse vécue par ces femmes face au tombeau vide. Non seulement Jésus de Nazareth est mort sur la croix, mais en plus, elle ne peut plus voir son corps comme elle l'aurait tellement souhaité. Le Jésus qu'elle connaissait et aimait avait disparu. Où était-il passé? Et surtout, où et comment le rejoindre? C'est alors que résonnent les paroles du jeune homme vêtu de blanc. Ces paroles qui tournent ces femmes aussitôt vers un avenir quelque peu incertain, problématique. Il n'est point ici, il vous précède en Galilée. Alors, il est dit, elles s'enfuirent toutes, car la peur et le trouble les avaient saisies, nous laissant nous-mêmes aujourd'hui face à cette énigme. J'en profite pour dire que ces femmes dont on dit qu'elles n'avaient pas parlé, ont parlé, bien sûr, faute de quoi nous ne serions pas dans cette hypothèse de travail. Au-delà de ça, je saisis aussi l'occasion pour souligner que tous les versets qui viennent après ont été rajoutés par la suite à l'évangile de Marc. L'évangile de Marc se termine bien sur cette peur, sur cette épouvante des femmes, après les paroles du jeune homme vêtu en blanc. Je crois qu'il est important d'avoir ces éléments-là en mémoire. Donc cet étrange message donne singulièrement à réfléchir. En effet, la Galilée, une région du nord d'Israël, est surtout connue à l'époque comme étant le pays fréquenté surtout par des païens. C'est une région que les Juifs ont tendance à éviter, car ils considèrent quelque peu impure. Cependant, c'est aussi une région que Jésus a parcourue et qui est donc marquée de son empreinte, de sa mémoire. Or, c'est précisément dans ce pays difficile que ses disciples sont invités à se rendre pour rencontrer le ressuscité. Ainsi, non seulement ces malheureux ont sombré dans le désespoir le soir de la crucifixion, mais en plus, il va falloir se rendre maintenant dans une contrée inquiétante. Cependant, et regardez de plus près, il s'agit bien d'une bonne nouvelle. Certes, la lointaine Galilée, l'étrange Galilée, C'est pour les disciples de Jésus, comme pour nous-mêmes aujourd'hui, symboliquement, le pays qui se trouve au-delà des paysages familiers. Mais à ses amis d'autrefois, comme nous aujourd'hui, c'est au-delà des horizons connus précisément que le Christ nous donne rendez-vous. Et peut-être dans un premier temps, tout d'abord au-delà des horizons de notre passé. Car s'il est un pays que nous croyons connaître par cœur et qui nous rassure, c'est avant tout le passé, notre passé à chacun et à chacune. Passé heureux, qui résonne toujours avec joie dans notre mémoire, empreint en même temps de nostalgie, mais aussi épisodes douloureux du passé, avec des blessures qui ne cicatriseront jamais. Toujours est-il que ce passé est connu. Donc ce passé de chacun d'entre nous nous a profondément façonné. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, qu'il s'agisse de notre conception de l'existence, de nos désillusions, de nos préjugés, de notre ouverture au monde ou de notre réserve devant ce que la vie nous apporte d'inattendu. C'est donc au-delà de ce passé que le Christ ressuscité nous attend. Mais quitter le pays du passé rassurant pour aller vers les contrées du présent et de l'avenir, voilà qui ne va pas forcément de soi. Car l'aventure nous donne toujours le vertige. Cependant, c'est possible, parce que Jésus-Christ nous y attend, il nous y invite, il nous précède en Galilée. Cela signifie avant tout, frères et sœurs, que Jésus n'est pas enfermé derrière nous dans un passé lointain. Il ne s'agit pas ici pour nous de nous prononcer sur les modalités de la résurrection, sur laquelle le récit de Marc est d'ailleurs remarquablement sobre. Mais il s'agit de comprendre que dans les évangiles, le Christ, après sa mort sur la croix, n'est pas réduit à un cadavre, mais qu'il demeure à jamais le vivant par excellence. De même qu'un texte biblique, quel qu'il soit, ne saurait être prisonnier de l'époque à laquelle il a été écrit. De même, Jésus de Nazareth n'appartient pas à un passé poussiéreux englouti par les siècles. Pour le rencontrer, il ne faut pas regarder derrière nous, mais devant nous, il nous précède. Ce renversement historique de notre regard désigne véritablement pour nous la réalité de la résurrection. J'entends encore, et mon ami le pasteur Laurent Gagnobin l'entend aussi, la voix du pasteur Georges Marchal, l'un des grands pasteurs du foyer et de l'âme, dont plusieurs d'entre nous ont eu le bonheur d'entendre les prédications, nous dire, je cite le pasteur Marchal, « Jésus marche en tête de notre longue caravane humaine. » Caravane souvent de souffrance, comme celle vécue par le Christ, mais aussi caravane d'invincible espérance vers un monde plus juste et plus fraternel. Monde qui nous invitait à construire par ses paroles et par ses actes exemplaires. Réaliser notre humanité dans sa plénitude, c'est aller tous ensemble vers ce Dieu qui, en Jésus-Christ, nous précède sur le chemin de l'histoire. Cette route que nous parcourons en commun, avec les hommes et les femmes de bonne volonté, unit pour nous la foi, l'espérance et l'amour sous toutes ses formes. Mais un autre pays familier qui peut être un obstacle à la rencontre du ressuscité est notre présent. Non pas que Dieu ne soit pas présent ici et maintenant, comme chaque jour de notre vie auprès de nous. Mais dans le fond, quelle conscience exacte, quelle conscience précise avons-nous de la présence de Dieu dans nos personnes, dans notre relation à l'autre, dans notre existence, lorsque nous sommes pris, emportés par le tourbillon de la vie, quand l'agitation, la tension de la vie quotidienne, les soucis viennent nous accabler et que nous avons l'impression de ne pas avoir le temps d'accomplir tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous voudrions faire. Là aussi, ne faut-il pas aller plus loin? Ne faut-il pas creuser plus en profondeur pour avoir une chance de ne pas manquer les rendez-vous? Oser être disponible Oser nous arrêter, oser faire une pause et ne pas craindre d'entreprendre un voyage au cœur de soi pour mieux s'ouvrir aux autres. Car là aussi, au-delà des apparences, il est une Galilée intérieure dont le Christ ressuscité n'est pas absent. Enfin, entre le passé et le présent, il est un dernier pays duquel il faut sortir s'il désire vraiment connaître le ressuscité. Ce pays, c'est celui d'un certain matérialisme qui peut être un réel obstacle pour celui qui l'érige en critère absolu, faisant abstraction des sentiments, des mouvements du cœur, de notre spiritualité et de notre liberté. Cette conception des choses peut être une vraie barrière, un obstacle, notamment quand elle se focalise sur la recherche de preuves quant à la résurrection de Jésus de Nazareth. Comme cela serait si facile, en effet, de croire, si nous pouvions démontrer preuves matérielles à l'appui, que Jésus est corporellement ressuscité. Or, très franchement, je ne pense pas qu'il faille s'approcher au tombeau vide, comme une réalité matérielle ou comme une preuve de la résurrection. Du reste, les évangiles ne nous disent rien de la résurrection en tant que telle. On la voit dans d'admirables tableaux, mais nulle part elle est décrite dans les évangiles. Dans les évangiles, ils ne nous disent pas « voilà comment Jésus est ressuscité », mais ils nous disent « Jésus est ressuscité ». J'emprunterai aussi d'ailleurs une parole de Laurent Gagnebin à ce propos qui dit très justement que l'on parle à tort des récits de la résurrection, puisqu'il n'y a pas de récit de la résurrection, et qu'on devrait parler plutôt de la proclamation de la résurrection, ce qui prend un sens en effet très différent. Du reste, dans ces épîtres qui, comme vous le savez, ont été rédigées avant les évangiles, l'apôtre Paul ne parle jamais de tombeau vide. Il en est de même pour l'apôtre Pierre dans les Actes des apôtres. Alors finalement, quand le jeune homme en blanc dit « il n'est pas ici », il veut faire comprendre aux femmes que ce qu'elles cherchent vraiment ne doit pas être un cadavre, mais qu'il faut chercher et trouver Jésus parmi les vivants dans une contrée étrange, sinon étrangère. Le tombeau vide n'est alors plus la source de notre foi, mais sa conséquence, car il devient vidé de toute réalité, de tout intérêt et de toute substance. D'ailleurs, vous le savez comme moi, les disciples n'ont jamais eu de preuve incontestable de la résurrection corporelle de Jésus. En effet, ils ne l'ont jamais reconnu dans une continuité, mais dans des instantanés, sous les traits d'un jardinier au petit matin, ou au bord d'un lac, ou encore sous les traits d'un pèlerin partageant le pain le soir dans une auberge, ou enfin par sa présence mystérieuse dans la chambre haute où il avait célébré le dernier repas. De plus, les évangélistes n'hésitent pas à affirmer que certains disciples doutèrent. Mais précisément, une impression, un sentiment, un signe, contrairement à une preuve, renvoie à notre liberté, je l'évoquais tout à l'heure. Car nous pouvons y voir, si nous l'acceptons, ce que Dieu nous donne à entendre. Car des signes de la présence du Christ ressuscité, il y en a de très nombreux pour ceux qui sont souvent attentifs à ce qui se passe autour d'eux. D'où vient, par exemple, à certains la sérénité de la douceur, de la bienveillance, de la charité envers et contre tout? D'où vient la mystérieuse capacité de pardonner, chose qui est loin d'être facile? D'où vient la capacité de renaître malgré les épreuves, d'aider les autres aussi à renaître? Oui, chaque scène de la vie de Jésus nous dit cette puissance de vie, son acharnement à relever l'être humain comme acteur de son propre miracle envers et contre la maladie, les handicaps, les préjugés, la haine, la jalousie, et aussi envers et contre lui-même quand il le faut. Certains seraient-ils tout simplement plus forts que leurs semblables, mieux armés pour résister aux tempêtes et aux difficultés de la vie? On pourrait le croire. Personnellement, je vois plutôt dans tel signe le miracle du ressuscité qui nous aide sans cesse à faire toutes choses nouvelles. Cette parole de Pâques devient alors une promesse pour chacun d'entre nous. Plus encore qu'une promesse, une force de vie qui nous pousse toujours en avant. Il nous précède en Galilée, c'est-à-dire dans des lieux à la fois familiers et différents, où l'on ne pense pas toujours à le chercher ni à le trouver, sur nos lieux de travail ou de vacances, en famille, entre amis ou entre voisins. Derrière un visage, c'est peut-être Jésus qui nous fait signe. Dans une nuit de découragement, c'est peut-être lui qui vient nous surprendre. Le Christ de Pâques n'est pas celui qui nous a quittés, mais celui qui ne cesse de venir, de surgir, sans même qu'on l'attende. Alors, notre vie s'arrondit de tout ce que sa présence suscite en nous. Il nous précède, il est toujours devant nous, comme un chemin ouvert par-delà nos impasses. Il nous montre de nouveaux commencements possibles, là où nous croyons que tout était définitivement perdu. Une espérance à la fois fragile et invincible, comme la lueur d'un phare dans la tempête. Pâques nous dit la vie ouverte sur l'espérance, une espérance à la fois fragile et forte, comme une lumière toujours conquise sur les ténèbres. Émerveillement de Pâques, la parole du ressuscité remet toujours la vie debout et dit à chacun « Tu es aimé d'un amour éternel que rien ni personne ne pourra t'enlever. » Fort de cette promesse, tu peux repartir, tu peux renaître. Partout, cet amour te donnera toujours la capacité de ressurgir, voire de travailler à ton tour à réveiller la vie chez les autres. Voilà notre vraie vocation de chrétien, devenir acteur de Pâques, ouvrier de la résurrection. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Alors, frères et sœurs, chers amis, puisse cette magnifique fête de Pâques que nous avons vécue il y a quelques semaines nous faire avancer toujours plus loin que le pays de notre passé disparu, plus loin que l'horizon du pays de notre présent, parfois bouché, parfois obscur, plus loin que les limites de notre matérialisme habituel et si confortable. Assurément, le Christ nous attend, vivant au pays de la liberté, au pays d'une vie pleine de sens, pleine de joie, pleine d'amour. La phrase « Il n'est pas ici, il vous précède en Galilée » fait du christianisme un optimisme résolu et inconditionnel, un élan individuel et collectif. Je pense à cet instant à l'admirable film de Pasolini, l'Évangile selon saint Matthieu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Il passe trop rarement à la télévision, parfois dans les ciné-clubs, on peut aussi se le procurer en DVD. Pasolini, je le rappelle, était un marxiste convaincu, et un athée tout à fait convaincu également. Et ce film est un miracle et démontre que l'esprit, précisément, souffle où il veut. Donc, dans ce film, dans la magnifique scène finale, Pasolini nous montre, à son sens, ce qu'est la résurrection, et je partage cette vision qu'il a. Face au tombeau vide, dans un élan impétueux, irrésistible, délivré de la tristesse de la mort, les femmes qui suivaient Jésus, les disciples, mais aussi des hommes et des femmes du commun, des paysans avec leurs outils, des enfants, courent à toute vitesse, s'élancent avec le sourire aux lèvres pour le chercher et pour le rencontrer. Frères et sœurs, chers amis, Nous savons que l'Éternel a donné aux apôtres la vision du Christ ressuscité, le relevant ainsi d'entre les morts pour entrer dans une vie sans plus de limites. Demain, dans un avenir qui n'appartient qu'à Dieu, nous serons à notre tour relevés de nos multiples tombeaux. Oui, aujourd'hui, l'Éternel est à l'œuvre. Lui qui a relevé Jésus d'entre les morts nous relève et nous relèvera toujours. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que dans nos vies, le Seigneur soit à l'œuvre contre les forces des ténèbres, contre toutes les puissances mortifères. Oui, le Christ nous fait vivre de sa vie dès maintenant. Ce que nous deviendrons appartient à Dieu, mais dès à présent, avec le ressuscité, nous sommes vivants et nous le demeurerons pour l'éternité. Amen.